Avec Jeannelle Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'avant-match. Nous sommes ensemble pendant pratiquement une heure pour parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passera un petit peu partout en Europe et pas que, avec bien entendu un retour sur la Ligue des Champions avec les qualifications notamment du FC Barcelone, large vainqueur du Borussia Dortmund, Lyon qui est encore en vie, le Paris Saint-Germain auteur d'un match nul de buts partout sur le terrain du Real Madrid. Et puis on évoquera aussi un petit peu l'actualité du football, les affiches du week-end et notamment en Angleterre avec l'annonce aujourd'hui du limogeage d'Unai Emery de son poste d'entraîneur d'Arsenal. À mes côtés pour entamer cette édition de l'avant-match, eh bien notre Messi et Ronaldo réunis dans cette première demi-heure. Alors je donne la parole tout d'abord à Fred Hermel. Salut Fred.
Je vois que je retrouve ma place, celle qui aura toujours dû être la mienne. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Comme par hasard, le Real Madrid joue de nouveau très très bien et je retrouve ma place de premier intervenant dans l'après-match et l'avant-match.
Et plutôt
pas de hasard.
Plutôt Messi ou Ronaldo, toi, tu veux préférer quand te compare plutôt à Messi ou Ronaldo?
Ça sera toujours Ronaldo. Parce que j'ai pas ma carrière,
pas
je l'ai construite.
Moi, je suis pas d'accord.
Moi, je l'ai construite. Non,
pas un
mais
grand
j'ai pas beaucoup de talent.
Mais t'as énormément
mais
de
si,
talent.
Mais si, non, mais c'est justement. Non. Mais non, moi, je suis un travailleur. Bah oui. Il y a
bon,
une
Messi,
travail.
Messi, c'est Hervé alors. Salut Hervé.
Ouais. Bonjour à vous les amis. Oh, c'est magnifique. Messi, ça me va bien. Je trouve
le talent pur.
Mais tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi moi je pourrais pas être Messi? Parce que moi, je suis gentil avec Antoine Griezmann.
Ah, mais ça va. Ça s'est
mais
arrangé.
C'est pour le faire grandir.
Mais non, ça s'est pas arrangé.
Je t'invite ben juste à jeter un coup d'œil sur Instagram de notre ami Antoine Griezmann.
Jalal.
Il reçoit un caviar et une belle accolade.
Jalal, tu fais confiance à ton correspondant?
Bien sûr.
Plutôt qu'à la communication des clubs
travailleur.
Et des joueurs.
Ouais.
Plutôt qu'à la communication officielle des joueurs et des clubs.
Ouais.
C'est très dur pour Antoine. Antoine fait tout ce qu'il peut. Antoine tient le coup. Face à l'attitude un peu compliquée de certains joueurs parce qu'il y a l'équipe de France. Et là, l'ami Hervé va confirmer qu'Antoine est souriant en équipe de France, ce qui n'est pas à Barcelone. Et Antoine est quelqu'un qui a envie de tout péter à l'Euro avec l'équipe de France. Donc ça lui permet de tenir. Voilà, le maillot bleu lui permet de tenir le coup.
Mais Fred, il est en train de s'adapter. Il est en équipe de France depuis des années. Là, il débarque dans une grosse machine. Laissons-lui un petit peu le temps de prendre ses marques. C'est pas évident.
Oui,
il est dans un groupe qui fonctionne très bien.
Oui, il y a tout ça.
Voilà.
Oui, mais quand il y a deux joueurs importants comme Messi et Suarez qui ne le regardent pas sur le terrain. Alors l'autre jour, c'était la première fois. Si on doit applaudir parce qu'un joueur fait une passe décisive à un autre, au bout de 4 mois, c'est quand même grave. Moi, j'étais à Leganés la semaine dernière. J'ai vu l'attitude de Messi et de Suarez par rapport à Griezmann. C'était pas terrible du tout. Et je voudrais vous rappeler quand même que Griezmann a été sorti à la 57e minute du match à Leganés et que mercredi, il était remplaçant. Hein, ok les amis, il était remplaçant dans le match le plus important de l'année jusqu'ici. Et s'il n'y avait pas eu cette blessure d'Ousmane Dembélé, eh ben il serait peut-être pas rentré en jeu.
Et est-ce qu'il mériterait d'être titulaire indiscutable aujourd'hui au vu de ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant?
Oui, mais il mériterait aussi que les autres jouent avec lui.
Hervé,
et c'est pas le cas aujourd'hui.
Ça t'intéresse aussi?
Oui, absolument. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas été accueilli avec des fleurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ça continue, hein.
Oui.
Oui, mais est-ce que ça vous étonne, les enfants? Mais
non,
je suis désolé.
C'est à lui. Non,
pour
mais justement, j'avais pas terminé ma phrase, Jalal.
Pour moi.
J'avais pas terminé ma phrase.
Oui, je te laisse finir.
Ouais, c'est à lui aussi, vous savez, vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, le football de haut niveau, c'est un combat, et c'est à lui de prouver qu'il mérite sa place, à lui d'ouvrir les portes, de défoncer les portes s'il le veut, pour s'imposer à Messi, pour s'imposer à Suarez, et après pour devenir un incontournable, parce que vous savez, Messi, il a besoin que d'une chose, il a envie que d'une chose, c'est de gagner des matchs. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'était le retour de Neymar, il n'a pas eu le retour de Neymar, il a Griezmann, ils n'avaient pas aimé tellement sa communication l'année dernière, avec quand il était resté à l'Atlético Madrid, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si Griezmann lui met 4 buts par match de la même manière, bon, il faudra qu'il le mette un peu moins que lui quand même, faut pas exagérer. Disons qu'il sera capable de le mettre dans les meilleures situations, mais c'est aussi à Griezmann de montrer qu'il mérite d'être là.
Mais vous êtes des consultants de premier ordre, vous suivez de très très près l'actualité de ces joueurs, que ce soit en équipe de France, en ce qui te concerne.
Jalal, Hervé, en plus on parle aux joueurs, en plus
voilà,
on leur parle.
En plus vous parlez aux joueurs. Mais moi ce que je dis, Fred, et je vous contredis pas du tout, c'est que le FC Barcelone, s'il recrute Antoine Griezmann, c'est limite pas pour aujourd'hui. Il est en train de préparer l'après-Messi. Et l'après-Messi, c'est Antoine Griezmann. Et ça, forcément, ça fait pas plaisir à l'arrière-garde.
Ça, on est d'accord.
Et donc, c'est à lui de s'adapter à cette situation.
Mais il le fait.
Et il le fait si bien. Voilà.
Il le fait parce que c'est toujours lui qui va chercher Messi. Moi, ça me gêne un peu qu'un champion du monde, comme Griezmann, ne se connaît pas Suarez, ne se connaît pas Messi, soit obligé d'aller tout le temps aller les voir, les féliciter, nanana. Enfin, c'est lui qui fait tous les efforts. Et là, on est en train d'applaudir Messi. Ouais, mais là, on est en train d'applaudir Messi parce qu'il a daigné faire une passe au bout de 4 mois à Griezmann. Moi, vous savez, les amis, vous me connaissez, je ne parle pas. Uniquement, c'est pas des impressions. Moi, je vous parle d'informations. Et mes informations, elles sont bonnes. Hein. C'est très dur pour Antoine à Barcelone. Et j'espère vraiment pour lui que Messi va comprendre que s'il joue avec Griezmann, c'est tout le Barça qui va en sortir gagnant.
Mais il va le comprendre. Il va le comprendre. Le problème, c'est que Griezmann n'a pas été aussi assez bon ces derniers temps. Faut pas se mentir non plus. C'est que c'est au joueur aussi de montrer ce qu'il est capable de faire. Quand il est remplacé la dernière fois, c'est un vrai souci. Si Dembélé se blesse pas, mais peut-être qu'on voit même pas Griezmann durant le match, ou alors 20 minutes et il
non,
met pas
son
but.
C'est ça.
Mais alors, il faut quand même dire que Dembélé a été très mauvais. Sur les 20 premières minutes qu'il a eu à jouer avec Barcelone, ça a été quand même très très faible. Donc je pense qu'il y a toujours une marge de manœuvre quand même pour Griezmann. Et aujourd'hui, maintenant, il faut qu'il profite de cette dynamique positive pour montrer qu'il peut s'imposer comme un titulaire indiscutable de Barcelone.
Alors, il y avait ce match franco-espagnol avec, bien entendu, le Real Madrid qui recevait le PSG. Il y avait une petite dette, bien sûr, après le large succès, la démonstration de force lors du match aller au Parc des Princes du PSG de Kylian Mbappé face au Real. On a vu un grand Real, une équipe du Real Madrid qui aurait pu, qui aurait dû arracher les 3 points de la victoire, mon cher Fred.
Bien entendu, j'étais au Bernabéu et j'ai vu le meilleur Real Madrid de la saison dans le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit relâchement après, et je pense que Marcelo, à chaque fois, les buts arrivent de son côté. Voilà, Marcelo, même quand il n'est pas directement responsable, il est indirectement responsable des buts que prend le Real Madrid. Et je pense que Zidane, qui a fait évoluer cette équipe en misant sur Valverde, sur Rodrigo, bientôt il sera obligé de miser sur Mendy, parce que Mendy donne vraiment une sensation de sécurité que n'offre plus Marcelo. Ça c'est un gros problème. Ce Real Madrid joue bien. Ce Real Madrid est physiquement en très très bonne condition. J'ai eu l'occasion de parler avec un joueur tout à l'heure, un joueur important, et il me disait oui, les gens pensent Grégory Dupont, il est champion du monde, c'est pour quelque chose. Le préparateur physique. Bien sûr, tout le monde aimerait que le Real soit en pleine forme au mois d'août. Sauf que ce qui compte, c'est d'être en pleine forme à partir du mois de novembre, quand se jouent les matchs décisifs. Et le match contre le PSG était un match décisif. Donc ce Real Madrid commence à fonctionner au bon moment. Et sincèrement, quand on voit l'état de Karim Benzema, quand on voit l'état de Valverde, de Kroos, qui a retrouvé un impact sur le jeu incroyable grâce à la nouvelle disposition des joueurs organisés par Zidane, quand on voit un très bon Varane, même s'il y a une petite erreur sur le but, il y a une incompréhension avec Courtois, mais dans le match, il est très bien. Franchement, moi, je vous dis que ce Real Madrid-là, il y a un mois, le président, les dirigeants voulaient virer Zidane, et aujourd'hui, on se dit que le Real Madrid peut refaire le coup, un doublé Liga et Ligue des Champions. En tout cas, sur la Liga, moi, je suis convaincu que le Real Madrid va la gagner.
Ah bon?
Oui. Il faut enregistrer ça. Il
faut l'enregistrer. Hey,
mais vous savez pourquoi je suis convaincu? Parce que le staff du Real Madrid en est convaincu. Et quand je vois le Barça, comment il joue par exemple à Leganés, le Barça peut faire des grands matchs, on le sait. Mais aujourd'hui, le Barça manque de régularité.
Et le Barça qui joue contre l'Atlético ce week-end, on y reviendra avec
bien
toi.
Bien sûr.
On reste sur ce match PSG. Oui.
Oui, parce que moi je suis prêt à prendre un pari aussi. Ouais. C'est que le Paris Saint-Germain sera champion de France.
Eh ben, tu sais quoi? Ah ouais, Messi, c'est le talent qui parle, Hervé, ah bah tu veux que je te dise. Hervé, ce match nul du Paris Saint-Germain, ce retour en seconde période du PSG, comment il a été vécu? C'était pas un très très grand match du côté du PSG, qui s'est même permis le luxe de laisser sur le banc un certain Neymar, qui, à en croire Marcelo, hein, il est très bon lui au niveau de dans le rôle du consultant plutôt qu'en celui de footballeur, qui
est sûr
qu'il est meilleur Neymar, meilleur que un certain Kylian Mbappé.
Kylian. Oui, alors là, on va dire que la plus belle chose du Paris Saint-Germain durant cette soirée, c'est son résultat. Parce que le 2-2, c'est quand même
Navas, il ne faut pas l'oublier.
Et Navas, évidemment. Mais justement, j'allais en venir à Navas. C'est-à-dire que le 2-2, c'est vraiment...
Inespéré.
C'est le mirage aux alouettes. Hein, parce que là, personne ne s'attendait à un tel résultat qu'on a vu la première heure, même l'heure 20 de jeu, la difficulté du Paris Saint-Germain à récupérer la moindre balle. Mais surtout, ils ont découvert, mais ça on le savait, on en avait déjà parlé dans l'émission, qu'avec Navas, ils avaient... enfin un gardien Ligue des Champions, celui qui peut vous permettre de toucher à vos rêves les plus fous, c'est-à-dire de remporter cette épreuve, eh bien c'est Navas. Navas a été phénoménal, il a arrêté à peu près tout, les deux buts qu'il prend, là il peut absolument rien, la tête piquée de Benzema plus la première frappe de Benzema, là il y a absolument rien à faire. Donc ça veut dire que dans cette grisaille absolue, vous avez eu au moins un petit sourire qui a été celui de Navas. Mais, il y a beaucoup de questions à se poser et j'ai bien peur que ce match-là ait entaché assez durablement la relation entre Neymar et Tuchel, car on avait vu depuis quelque temps déjà Tuchel dans des conférences de presse, il avait tendance à, si ce n'est à piquer son joueur, en tout cas à pas le défendre complètement. On se souvient de l'épisode de l'été, hein, où la porte avait été ouverte pour un possible départ, et là, le fait de le mettre remplaçant à Madrid, contre le Real Madrid, il faut imaginer ce que c'est dans l'esprit de Neymar,
mais il revient
remplaçant
de blessure
dans un match comme ça.
Et il est loin d'être affûté, hein, on l'a remarqué. Hein.
Oh, ah ben moi j'ai l'impression qu'il a 5 kilos de trop.
Ouais.
Donc je pense qu'il n'est pas du tout affûté. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes Neymar, vous voulez jouer. C'est comme si vous aviez privé Ronaldo d'un match comme ça. C'est comme si vous aviez privé Messi d'un match comme ça.
C'est sûr.
Donc c'est comme si, par exemple,
on fait l'avant-match sans Fred Hermel, même s'il est grippé, même s'il est malade, même s'il a une angine.
Ah ben,
on est obligé.
Il ne l'accepte pas. Ouais. Il ne l'accepte pas.
Et ben, excusez-moi, merci de ne pas me comparer à Neymar. Hein. Je suis bien meilleur journaliste que Neymar footballeur.
Hervé.
Mais vous n'avez pas tout à fait le même compte en banque.
Exactement.
Même si ton livre
se vend à
des milliers d'exemplaires.
Monsieur, eh oui. C'est la ruée vers l'or pour notre Fred National. Hervé.
Oui, donc tout ça pour dire quand même que du côté du Paris Saint-Germain, il y a aujourd'hui des interrogations qui sont en train de naître et il y a ce poids maintenant de Tuchel parce que, en gros, depuis la défaite contre Manchester United, on a la sensation d'une équipe du PSG qui est capable de coups. Il l'avait montré à l'aller contre le Real Madrid, mais surtout qui est sur encéphalogramme plat. Hein, il y a des matchs vraiment très très moyens, il y a très peu d'intensité dans les matchs, dans le jeu, et pourtant l'effectif est là, l'effectif est présent, il y a du monde, et des choix qui peuvent surprendre, et puis aujourd'hui des résultats qui ne sont pas complètement à la hauteur des ambitions parisiennes. Alors attention, ils sont leaders du championnat de France, mais enfin, championnat de France, s'ils ne sont pas leaders, ce sera vraiment un désastre absolu, vu le résultat des autres, et puis en Ligue des Champions, ils vont quand même finir premier de leur groupe, mais il y a quand même quelques petites choses à voir, et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un mercato un petit peu qui pourrait bouger légèrement sur quelques lignes et ramener un ou deux joueurs.
Alors, je peux pas, loin de moi l'idée, hein, de me comparer à vous, bien sûr, Fred Hermel, Ronaldo et Hervé Penaud, Messi. Mais je m'y connais un tout petit peu au niveau football aussi, au vu de l'expérience. Et j'ai remarqué qu'un joueur est en train d'exploser, mais il m'impressionne match après match. Il s'appelle Valverde, il est uruguayen, il est jeune et il est juste impressionnant et il impressionne tout le monde. Et on écoute Zinedine Zidane évoquant justement le cas de son milieu de terrain uruguayen Valverde.
Bon, sa progression, elle est naturelle. Je pense que c'est un jeune joueur qui a envie de démontrer toutes ses qualités. Le seul truc, c'est qu'il a, il a pris beaucoup de confiance. Et je pense que dans le foot, c'est la chose primordiale. C'est quand on est en confiance, ses qualités se voient au grand jour, quoi, tout simplement. Et c'est juste ce qu'il est en train de faire, montrer ses qualités avec beaucoup de détermination. Il a envie de, lui-même le dit dans ses interviews, il apprend beaucoup de tout le monde. Et le fait d'être là depuis maintenant deux ou trois saisons, voilà, quand on lui donne la possibilité de le faire, il le fait très bien.
Et voilà, et il donne cette possibilité Zidane aux jeunes, et notamment à Valverde, et qui a été exceptionnel hein, depuis le début de saison. Mais ce match contre le PSG le confirme, Fred.
Oui, et puis c'est pas un hasard, parce que il y a 2 ans, alors que personne ne connaissait Valverde, ouais. Que Valverde appartenait au Real Madrid, qu'il sortait du Castilla et qu'il avait été prêté au Deportivo La Coruña, un membre du staff technique de Zizou m'avait dit, tu sais, le jeune Valverde, on l'a à l'œil et tu vas voir, ça va être un super joueur. Il y a 2 ans, hein. Ouais. Et à l'époque, personne n'en parlait. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard. Zidane suivait ce joueur. Et Zidane, qui est un pragmatique, voulait Pogba. Bon, le Real ne lui a pas apporté Pogba. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un nouveau milieu de terrain avec Valverde. Et finalement, le rôle qu'aurait exercé Pogba, le côté défensif est assuré par Valverde, le côté offensif est assuré par Kroos. Ce milieu Valverde, Kroos et Casemiro, mais c'est d'une puissance et d'une technique incroyable. Vraiment, il a de nouveau blindé son équipe. Je vous dis, pour que ce Real soit parfait, il suffit de remplacer Marcelo par Mendy, et je pense que ça sera dur d'aller les chercher. Voilà, vraiment.
Alors, on a évoqué bien sûr le cas de Valverde. Je reviens maintenant du côté de Paris pour y retrouver bien entendu toujours Hervé. Hervé, le PSG qui a fait donc une belle opération pour Lyon. Par contre, ça se complique, cher ami.
Ça va mal, les amis, pour Rudy Garcia et pour Lyon, parce qu'il fallait au moins un match nul au Zénith Saint-Pétersbourg. Ils ont perdu, et vu le résultat de l'autre côté,
ouais, hein, c'est ça, surtout.
Entre le Benfica et Leipzig, et le match nul, ce qui fait qu'il pourrait tout à fait Lyon se retrouver dernier de la poule si jamais Benfica battait le Zénith la prochaine journée, et que Leipzig venait à gagner à Lyon. Donc aujourd'hui, vous savez, vous êtes Lyon, ben vous savez pas...
Ah, si vous êtes Lyon, vous êtes en difficulté, bien sûr. Ça, c'est... Ça, on est d'accord, hein. Hervé.
Parce qu'il y a des vraies interrogations. Oui, ouais. Excusez-moi.
Ouais.
Il y a des vraies interrogations aujourd'hui sur la capacité de ce groupe à se relancer. Et on le voit en championnat, où ils sont quand même très très mal placés. Et on le voit en Ligue des Champions, où c'est très très compliqué pour eux. Alors tout est possible. C'est-à-dire qu'ils peuvent finir premier du groupe. S'ils battent Leipzig, ils vont finir premier de leur groupe. Ou alors être sortis de la Ligue des Champions, voire carrément sortis de la Ligue Europa. Donc aujourd'hui, sur Lyon, on a des incertitudes absolument sur tout. Et ils ont un match demain à Strasbourg, demain après-midi, qui va être capital pour eux. Parce que si jamais Marseille venait à gagner ce soir contre Brest, il y a une possibilité, vous pouvez vous retrouver à 9 points de Marseille. Et ce que l'OL, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi loin de leur ennemi intime, on va dire, hein, parce que Paris Saint-Germain et Monaco, c'est pas tout à fait la même chose. Et Saint-Etienne, c'est pas le même cadre, puisque ils jouent pas tout à fait dans la même catégorie. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour Lyon, il y a un souci majeur. Garcia, il a des résultats qui sont à plus ou moins identiques finalement à ceux qu'a pu connaître Silvinho, et on va finir quand même par se poser la vraie question, qui est qu'il y a des vrais soucis d'équilibre dans cette équipe, de joueurs en fait, et un effectif qui a mal été fagoté à mon avis.
Alors on revient à la Liga et à cette très 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 belle affiche de dimanche soir à 21h, l'équipe de l'Atlético Madrid qui reçoit le FC Barcelone, l'affiche du week-end en Liga, Fred.
Ah oui, mais c'est un match que tout le monde attend. Et bien sûr, j'aurai la chance d'y être en direct au Wanda Metropolitano. En plus, il y a plein d'histoires, hein, à commencer par le retour d'Antoine Griezmann. Voilà, vous savez, il y a une sorte de walk of fame à l'Atlético, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles dans le sol, gravées dans le sol, avec les noms des joueurs importants qui sont passés par le club colchonero. Et l'étoile avec le nom de Griezmann a été souillée à plusieurs reprises depuis son départ à Barcelone. Donc le retour de Griezou au Wanda va être horrible. Et c'est très triste. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup apporté à l'Atlético, qui a beaucoup reçu aussi. Mais je trouve que ce manque de mémoire des supporters est tout à fait indécent. Donc ça va être un concert de sifflets contre Antoine Griezmann. Voilà, et qui devrait être titulaire. Parce qu'en plus, comme Dembélé est blessé, on ne voit pas comment Griezmann pourrait être remplaçant. Et puis ce serait terrible qu'il débute du banc et qu'il entre à un moment. Alors là, il y aurait vraiment tout le stade contre lui, quoi. Vous voyez, c'est... Si Valverde veut le protéger un peu, mais qu'il le mette surtout titulaire tout de suite, quoi. Enfin, ça serait logique. Après, avec Valverde, on sait jamais. Je vous annonce officiellement que je ne suis plus supporter de Valverde. Je l'ai défendu pendant longtemps, mais là, quand je vois comment joue cette équipe, notamment à Leganés, je comprends que les supporters du Barça en aient assez de cet entraîneur. Je ferme la parenthèse. Et du côté de l'Atlético, ben, c'est une équipe un peu souffroteuse, hein, qui a perdu en Ligue des Champions, qui, comme Lyon, se retrouve dans une position, il va falloir battre le Lokomotiv Moscou lors de la dernière journée de la Ligue des Champions pour assurer la qualification. C'est une équipe qui a quand même perdu beaucoup de points en Liga et c'est une équipe qui ne marque pas assez de buts. Et en plus, Joao Félix revient de blessure et on attend un petit peu trop de ce jeune joueur qui est encore en formation. Donc on est vraiment dans une année de transition à l'Atlético et je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de désillusions du côté des supporters.
Alors, au programme également cette fin de semaine, Hervé, le retour de la Ligue des Champions dans sa phase de poule en Afrique avec quelques belles affiches et notamment le retour à Casablanca de l'Espérance de Tunis pour y croiser non pas le WAC comme ça a été le cas en finale de la dernière édition, mais le Raja et plein d'autres affiches. Le Raja qui reste bien sûr sur cet exploit lors du derby la semaine dernière dans une ambiance de folie.
Eh ben justement, on va voir s'ils seront capables de capitaliser, parce que bon, ça reste la première journée hein, des six journées, donc c'est le début. Mais il n'empêche que si vous battez d'entrée Tunis, et l'avantage en plus, c'est que après ce qui vient de se passer en Coupe arabe, on a l'impression d'une dynamique positive qui s'enclencherait assurément. Alors bon, il y a quelques matchs comme ça importants pour Tunis. En plus, ça va leur faire bizarre de retrouver Casablanca, peut-être. Hein, ils vont se dire, oh, ça nous rappelle des souvenirs. Quoi qu'au final, après tous les appels, contre-appels, appels de la CAF, finalement, ils ont fini par remporter la Ligue des Champions. Mais vous avez quand même 2-3 matchs qu'il faut mettre en évidence. Bon, évidemment, on va parler du Wydad, hein, puisqu'il jouera à Alger. Donc ça va aussi être un match très compliqué. Il y a beaucoup d'équipes, d'ailleurs, maghrébines et équipes aussi égyptiennes en compétition, plus de la moitié. Donc ça prouve quand même qu'il y a une domination du football du nord de l'Afrique sur le continent qui est assez importante. Et puis, bon, je pense à un match Étoile du Sahel à Lali. J'attends de voir avec intérêt, voir ce qui peut se passer. Donc ça va être une première journée à suivre. Il y a des matchs phares. L'avantage, c'est que c'est assez condensé, hein, puisque quand vous n'avez que 8 matchs, vous avez peu d'équipes finalement en compétition. On n'est pas comme dans une Ligue des Champions européenne, où là, vous avez un tas de groupes. Et ben, ça rend les matchs d'autant plus intéressants. Hein. Par exemple, le TP Mazembe qui va ouais. recevoir Zamalek. Ça peut être un match chaud, sachant que Zamalek, le TP Mazembe, a fêté ses 80 ans en présence de plein d'acteurs du football mondial, dont Gianni Infantino.
Merci beaucoup, mon cher Hervé. Merci, Fred. C'est la fin de cette première partie de l'avant-match. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'avant-match où il sera question, oh là là, de la première ligue anglaise, de la Serie A italienne, de la Bundesliga et surtout de cette compétition qui unit tout ce beau monde, bien sûr la Ligue des Champions. J'accueille tout d'abord Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Avec nous également David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, bonsoir à tous et salut à Simone.
Et on va joindre tout à l'heure aussi Aurélien Devernois, notre consultant pour la première ligue anglaise. Je vais d'abord commencer avec toi, David. Le Bayern de Munich, la greffe est en train de prendre hein, depuis le départ de Niko Kovac avec le nouvel entraîneur entre guillemets intérimaire, mais peut-être qu'il ne l'est plus vraiment. Avec bien sûr cette démonstration de force, cette qualification et ce Lewandowski, mais juste incroyable.
Oui, c'est sa meilleure période alors que il avait déjà été très bon par le passé, notamment avec Dortmund, capable de coups d'éclat en Coupe d'Europe, capable de marquer, allez, on va dire 25-30 buts dans une saison, peut-être même plus parfois. Et là, Lewandowski, eh bien, il a réuni tous les ingrédients. Pas de blessure, un moral au beau fixe avec une vie intime, une vie de famille tout à fait agréable pour lui, avec des joueurs autour de lui qui sont à son service, on peut le résumer ainsi, et puis avec des demandes qu'il avait formulées qui ont été exaucées avec l'arrivée de joueurs axiaux et latéraux sur les ailes et dans l'axe derrière lui qui peuvent lui livrer d'excellents ballons, et ça en fait un joueur qui étonne encore, à augmenter son niveau à plus de 30 ans. Et je me suis amusé à écouter un petit peu les commentaires des autres pays à l'occasion de ce match de Coupe d'Europe et de ces buts qui n'arrêtaient plus de marquer. Et tout le monde est encore surpris par ce qu'il arrive à faire. On se dit, mais tout rentre, tout lui réussit. Alors c'est peut-être une période, c'est peut-être conjoncturel, mais en tout cas, ça coïncide avec... je le disais, ses qualités physiques, ses capacités mentales, et puis quand même aussi la conjoncture, le contexte. Hansi Flick qui a remis un peu l'équipe d'aplomb, qui a écouté les joueurs, qui met l'équipe en avant tout en tressant les louanges subtilement de Robert Lewandowski. Et ça, c'est toute la qualité d'un entraîneur d'être capable de mentionner à la fois les qualités du collectif tout en ménageant sa star. Lewandowski est vraiment pertinent en ce moment, c'est vrai Jalal.
Lewandowski pertinent, on peut pas en dire autant pour un certain Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus de Turin. Ronaldo et puis les autres équipes italiennes engagées dans les compétitions, bien sûr, continentales, je pense bien entendu, à Ancelotti avec Naples et l'Atalanta et aussi l'Inter.
Bah, Cristiano Ronaldo, quand même, c'est un mec très chanceux. Il était au premier rang pour voir un spectacle magnifique qui a été fait par Paolo Dybala. Donc, même dans une situation très compliquée pour lui, parce qu'il faut le dire, Cristiano Ronaldo aujourd'hui est très très loin de la grande star qui avait fait rêver la saison dernière à la Juve et qui avait fait montrer, où il avait montré tout son potentiel en disant je peux faire mieux la saison prochaine. Malheureusement, c'est pas ça. C'est un début de saison très compliqué, les polémiques, les sorties du terrain, les blessures. On parle toujours de son problème au genou. Mais il a la chance parce qu'à côté de lui, il y a un Dybala qui joue un football magnifique, même si un peu intermittent, il est capable de montrer toutes ses qualités, et une Gonzalo Higuaín retrouvée. Donc, c'est vrai qu'il devrait être des protagonistes. Pour l'instant, il est que spectateur. Mais c'est un beau spectateur parce que les supporters de la Juve attendent beaucoup de lui. Et lui, selon ce qu'on m'a fait comprendre du côté de la Juve, il sera prêt pour les printemps, quand les matchs seront plus importants.
Et il sera prêt, on l'espère bien entendu, pour
le printemps. C'est ce qu'on me dit à Tourin. C'est qu'on me dit qu'au Tourin, on me dit il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il sera là quand il y aura les matchs important. Pour l'instant, on peut dire qu'il est un très beau spectateur, mais protagoniste, non, pas du tout.
Voilà, pas du tout protagoniste pour l'instant, mais en même temps, ça peut te rassurer, mon cher Simonet, les Ligues des Champions et les titres ne se gagnent pas maintenant, mais plutôt vers mars, avril, mai, et là, on va retrouver avec le retour du grand soleil un petit peu partout en Europe, le grand Ronaldo. Le soleil, on n'a pas beaucoup du côté de l'Angleterre, et il n'y a pas eu de coup d'éclat non plus lors de cette semaine en Ligue des Champions. Une seule victoire sur les 7 matchs disputés par les clubs anglais. Quand on parle football anglais, on pense bien sûr à Aurélien Devernois. Aurélien, pas très brillant tout ça.
Alors cette soirée européenne, elle a été... on ne peut pas dire que c'est une réussite, hein, parce que finalement, il n'y a qu'une victoire, rendez-vous compte, hein, sur les 7 clubs anglais engagés en Champions League et en Europa League. Une seule victoire sur 7 matchs, c'est celle complètement improbable au vu du début de rencontre de Tottenham contre Olympiakos. Tottenham menait 2-0, puis qui a complètement réussi à inverser la vapeur. Ça, c'est encore une fois l'effet Mourinho. Mais vraiment, on se dit que Tottenham... Il va falloir réfléchir très très vite à comment stabiliser la défense, parce que là c'est vraiment un problème récurrent. Le talent offensif, il est là. Mourinho a réussi quasiment l'impossible, c'est-à-dire ressusciter l'international ivoirien Serge Aurier d'entre les morts, parce qu'il était pas non grata du côté de Tottenham et du côté de Pochettino, mais en tout cas pas dans les petits papiers. Et puis là, il a fait un match extraordinaire contre l'Olympiakos, ponctué d'une passe décisive et d'un but. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le même Serge Aurier a toujours ses carences défensives qui font que les équipes adverses savent s'engouffrer dans son couloir et poser des problèmes à ses coéquipiers en défense. Donc voilà, donc Tottenham doit trouver des solutions, mais Tottenham est désormais qualifié pour ses huitièmes de finale, sauf catastrophe. Donc ça, c'est une bonne chose déjà de fait pour l'équipe londonienne. Reste maintenant en effet à réfléchir à comment faire que la solidité défensive soit de retour. Le match peut-être le plus frustrant, il est certainement à mettre à l'actif de Chelsea, qui est, on se disait, avait le match en main sur la pelouse de Valence, et puis finalement a laissé échapper cette victoire qui aurait été qualificative en concédant l'égalisation en fin de rencontre et en plus miraculeusement en évitant la défaite à la toute dernière minute. Voilà, cette équipe de Chelsea, elle est jeune, elle est inexpérimentée au niveau européen. En première ligue, ça passe parce qu'il y a la ferveur des supporters, il y a aussi peut-être plus de certitude du côté de tous ces jeunes joueurs. En Europe, c'est plus compliqué, il y a des équipes aussi beaucoup plus expérimentées en face et on sent bien que Lampard a encore du travail à faire pour sur le côté mental et sur la capacité de tous ces jeunes, hein, parce qu'il y a quand même quasiment la moitié de l'équipe qui a moins de 22 ans, faire que tous ces jeunes finalement réussissent à ne pas craquer sous la pression. L'avantage, c'est que Chelsea finalement a très largement son destin en main, puisque Chelsea accueillera Lille lors de la dernière journée, Lille qui est vraiment en totale déshérence dans cette Ligue des Champions, et ses adversaires pour la qualification s'affrontent, à savoir que Valence se déplace à l'Ajax. Donc finalement, si Chelsea gagne contre Lille, ils sont sûrs d'être qualifiés, donc ça c'est une bonne nouvelle. La contre-performance, je dirais, c'est vraiment celle de Liverpool à domicile contre Naples, parce que ce match nul, il arrange pas du tout les joueurs de Jurgen Klopp qui vont devoir se déplacer à Salzbourg lors de la dernière journée. Et ça va être un déplacement très, très, très compliqué parce que vraiment Salzbourg joue très bien avec son avant-centre prodige Haaland qui est très, très bon. Ça va être un match vraiment délicat. À l'aller, rappelez-vous, c'était au début du mois d'octobre, Liverpool avait gagné, mais difficilement 4 buts à 3 en ayant mené 3-0, en s'étant fait remonter 3 partout et puis finalement réussir à l'emporter, à l'arracher en fin de match. Il y a un risque, il y a un vrai risque pour Liverpool de se faire éliminer, hein, tout simplement. Donc attention à ce déplacement en Autriche. Et puis enfin, Manchester City qui a fait un match assez médiocre contre le Shakhtar Donetsk, mais bon, les Mancuniens étaient déjà qualifiés, donc finalement pas trop de soucis de ce côté. Puis du côté de l'Europa League, on a parlé d'Arsenal, Manchester United avait envoyé une équipe de gamins pour jouer au Kazakhstan, il y a eu une défaite au final, mais pareil, Manchester United était qualifié. Et puis Wolverhampton a assuré la qualification également sur la pelouse de Praga. C'était un peu le match des poulains de Jorge Mendes, l'agent portugais, puisqu'il a beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient un peu des deux côtés dans les deux équipes, et finalement ce match nul arrange tout le monde.
Voilà, match nul qui arrange tout le monde. Naples qui a fait donc ce bon résultat, qui intervient dans un contexte, Simone, très compliqué. Et avant le match, l'entraîneur de cette équipe de Naples, Carlo Ancelotti, a évoqué voilà sa situation personnelle. Il a dit que là, il voulait pas claquer la porte du club, mais en Italie, on commençait vraiment très sérieusement envisager ce scénario. Il y avait même un certain Gattuso qu'on a lancé comme candidat pour succéder à Carlo Ancelotti.
Oui, oui, les bruits étaient plusieurs, et beaucoup de rumeurs. Juste quelques heures avant le match, j'ai parlé avec quelqu'un de Naples qui connaît très bien le club et me disait s'il y a une grosse défaite, 3, 4, 5-0, ça pourrait coûter la place à Carlo Ancelotti. Ça pour dire qu'il n'y avait même pas beaucoup de confiance sur le fait que Naples pouvait faire un bon match. Le match a été joué très bien en première mi-temps, où Naples a tenu choc et a marqué des buts, a eu des occasions face à Liverpool. En deuxième mi-temps, oui, c'était un peu à l'ancienne, un peu plus Catenaccio, beaucoup de défense, et la malchance, c'est que les buts de Liverpool arrivent sur un coup de pied arrêté, et les gardiens Meret n'ont même pas du choix de faire, n'ont même pas été obligés à faire beaucoup d'arrêts. Donc, ça montre que la solidité défensive de Naples a été très très bonne, guidée par un Koulibaly sublime, vraiment toute la soirée. Mais la nouveauté, l'info du jour, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu 1h30 de rendez-vous entre 13h et 14h30 au centre d'entraînement de Napoli avec les présidents, les joueurs, Carlo Ancelotti et son staff. Et apparemment, l'atmosphère est un peu plus tranquille. Il y aura quand même toujours des sanctions pour les joueurs qui sont pour leur moutinerie face à Salzbourg, après les matchs face à Salzbourg. Mais on peut dire qu'il y a des gros pas en avant pour un retour en solution de tranquillité, et les matchs, les résultats et cette qualification qui est vraiment à quelques centimètres aujourd'hui, et tout ça est mérite de Carlo Ancelotti. Et donc c'est Carlo Ancelotti qui est en train de remettre les soleils sur le ciel de Naples après plusieurs semaines de tourmentes, de pluie et des nuages.
Voilà, donc de la pluie, des nuages, mais même une véritable tempête pour un autre entraîneur. C'est bien entendu Emre, Unai Emre, qui a été démis de ses fonctions tout à l'heure par le club d'Arsenal. Autre histoire d'entraîneur, un grand retour cette fois. Et c'est du côté de l'Allemagne, mon cher David. Le grand retour de l'ancien sélectionneur Klinsmann, et ce soit sur le banc du Hertha Berlin, ça sera demain contre le Borussia Dortmund. Et tout ça, bien entendu, fait du buzz en Allemagne et même en Europe.
Oui, 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 évidemment, Jalal, c'est une histoire qui est assez, assez amusante quand même, parce que Jürgen Klinsmann avait laissé cette espèce de parfum, de rêve en 2006 avec l'équipe nationale, le Sommermärchen, le conte d'été, on avait appelé ça en Allemagne, et on avait adoré le fait que l'équipe d'Allemagne avait permis au peuple allemand amateur de football de renouer un petit peu avec son drapeau. Hein, on avait pas eu honte de se retrouver en public dans la rue et d'agiter le drapeau de la Mannschaft, et c'était un peu nouveau, et c'était grâce au football agréable proposé par Klinsmann. Et on était resté un petit peu sur cette idée, et il s'était un petit peu mis en sommeil sur le plan du coaching. Et là, il était revenu dans la direction du Hertha Berlin très récemment, et le Hertha n'a pas été convaincu par l'arrivée de Ante Čović, le coach croate qui avait pris l'équipe en main cet été. Le Hertha était en baisse de confiance, en baisse de qualité de football, avec des résultats médiocres. Par exemple, le derby contre l'Union Berlin avait été un mauvais match de la part du Hertha. Il y a des symboles qui comptent. Et puis, Čović a été démis de ses fonctions, et Klinsmann a pris la suite de façon si précipitée, raconte-t-on, qu'il n'avait prévu pour ce job que 4 jours de vêtements dans sa valise, de telle sorte que bon, il est obligé un petit peu de se réorganiser en catastrophe. Il est à l'hôtel actuellement pour diriger l'équipe, et il ne s'est pas encore du tout installé dans le costume d'entraîneur. Mais étant donné qu'en ce moment en Allemagne les changements d'entraîneur sont très souvent, là, ces jours-ci, ces semaines-ci, des grandes réussites avec des victoires fracassantes pour certains, et notamment Hansi Flick au Bayern, on se dit que peut-être c'est le bon moment pour le Hertha de se réveiller avec Klinsmann contre un Dortmund moribond, battu par Barcelone cette semaine, mais ça, à la limite, c'est logique, mais surtout dans une très mauvaise passe. C'est peut-être le moment pour le Hertha de se réveiller au détriment d'un autre grand d'Allemagne.
Voilà donc pour ce grand retour de Klinsmann. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end en Italie? Voilà, un petit chat dans la gorge. On parlait d'Allemagne, et maintenant, voilà, puis de l'Italie ce week-end. Quelles affiches fait-nous rêver, Simone?
Bah, si on parle de grands retours, moi je vous vends celui qui pour moi pourrait être un grand retour, parce qu'après quelques jours de problèmes, il y aura les retours de Balotelli avec Brescia. Donc on parle toujours de l'équipe qui est dernière de la Serie A, mais c'est vrai que pour cette équipe, dans les derbies face à l'Atalanta, les retours de Balotelli pourraient être finalement, moi j'ai toujours l'espoir de le voir redevenir les joueurs qui faisaient très bien avec Milan et Inter et Nice. On verra. C'est sûr que le calendrier aujourd'hui ne donne pas des énormes affiches, parce que on sait bien, la Juve joue face à Sassuolo dimanche à 12h30, l'Inter face à la Spal, Naples reçoit Bologne, mais c'est des matchs qui, après les belles performances européennes, dont l'obligation à ce club de se confirmer et de retrouver la victoire aussi en Serie A pour continuer cette magnifique duel en tête du classement. On parlait des retrouvailles, des retours des entraîneurs, de Klinsmann. Moi, je parle d'un retour à la vie normale pour Mihajlovic, qui aujourd'hui, pour la première fois, 4 mois après, a fait une conférence de presse. Il a parlé de sa guerre gagnée face à la maladie, face à la leucémie. Il a donné un message d'espoir à tout le monde qui souffre, tout le monde qui lutte. Il a parlé des plaisirs de retrouver vraiment la vie et les terrains. Mais bon, le football, pour nous, c'est la vie. Et on comprend très bien que retrouver les ballons tous les jours, pour lui, c'est retrouver la vie. Et je pense que c'est le plus beau message que peut nous donner ces week-ends de football, c'est de revoir encore une fois Mihajlovic sur le banc de touche, mais cette fois, après avoir gagné définitivement son combat.
Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique cette très belle histoire de Mihajlovic. On lui souhaite bien entendu une longue vie en tant qu'entraîneur, mais pas que, parce que sa lutte, elle ne concerne pas que l'entraîneur, que le football, mais beaucoup de gens dans le monde. Merci beaucoup Simone Rovera. Merci Aurélien Ciao. De Vernois. Merci David Lortolari et merci Abdelrahim Bakkali. C'est la fin de cette édition de l'avant-match. On se retrouve lundi. Ciao.
Média 1 à Dakar 93.8.